C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, cinéaste, romancier, dramaturge, chanteur. Œuvres nombreuses, notamment plusieurs films avec Betty Davis, Kathleen Turner dans La Guerre des Roses, Camille Cotin dans 10%, certaines chansons de Madonna. Personnage ou stéréotype, la garce. Un stéréotype procède parfois d'une observation des faits qui est ensuite condensée dans quelques traits stylisés. Ce stéréotype peut à son tour engendrer des comportements d'imitation qui semblent accréditer la véracité d'une observation au départ sommaire. Parmi les stéréotypes féminins, deux ont connu une fortune durable qui parfois dure encore. L'un et l'autre consignent un comportement de certains groupes de femmes dans la société. Les voici l'objet d'un diptyque de personnages en personne. Le premier cette semaine sur la garce, le second la semaine prochaine sur la jeune fille. Ah la garce, qui dit ça? Les hommes, les femmes. Ce n'est pas une injure sexiste, c'est la constatation d'un comportement qu'on résume dans une catégorie, un type. La garce est une femme, son nom l'indique. Garçon, garce. La garce, on ne s'en méfie pas, on s'en venge par ce mot, car elle a été plus rapide que ses ennemis. La garce, cela peut aussi se dire avec une teinte d'admiration. Ah, la garce, elle a réussi son affaire. L'idée de garcerie, si je peux employer le mot, comprend, je crois, la notion de quelqu'un qui se défend plus qu'il n'agresse, une chatte qui griffe parce qu'on s'est approché d'elle par surprise. La garcerie serait-elle temporaire? On pourrait dire que la tragédie fournit de grands rôles de garce comme Médée, Lady Macbeth ou la Cléopâtre de la Rodogune de Corneille, laquelle n'est d'ailleurs pas la Cléopâtre de César, mais ce serait diminuer les grands crimes et la grande folie froide de ces féroces. Je crois la garce plus bénigne que cela. La garce est sans doute plus peau de vache que méchante, et c'est le sens du mot anglais, d'usage surtout américain, « bitch ». Bitch est parfois traduit salope, mais là aussi c'est exagéré. La garce n'a pas la continuité de la salope. La salope l'est sans arrêt, en tout, appliquée dans sa malveillance et d'ailleurs dans sa vulgarité. Si la salope fonctionne au courant continu, la garce fonctionne au courant alternatif. Je place cette émission sous les auspices de celle qu'on pourrait surnommer la mère de toutes les garces, l'actrice Betty Davis, au sujet de laquelle voici une remarque bien garce, écrite par un homme, Christopher Isherwood, dans son journal intime. Betty Davis est une arrogante garce à tête de perroquet et sans excès de talent. Qui est la garce? Pour en parler, je reçois Anne Boulet, journaliste, auteure de Mère indigne, mode d'emploi, chez De Noël. Anne Boulet, pour essayer d'avancer dans notre typologie très sérieuse des garces, nous en avons choisi l'un et l'autre quelques-unes dans diverses formes d'art, cinéma, séries télévisées, etc., etc. Et pour commencer sérieusement par la littérature, je voudrais que nous parlions d'une très amusante nouvelle de Tchekhov qui s'appelle « Les garces ».
Alors, qui est d'abord traduite par les paysannes. Donc, avant d'être une garce, l'héroïne de ce roman, de cette nouvelle, est une paysanne. Je ne comprends pas très bien pourquoi cette nouvelle s'appelle « Les garces » d'ailleurs, parce qu'il est essentiellement question d'une seule femme, qui est surtout très malheureuse, comme dans beaucoup de nouvelles de Tchekhov. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi on peut la qualifier de garce. Elle me paraît très très loin, effectivement, des personnages que vous avez cités plus tôt, comme Bette Davis. C'est une pauvre femme qui subit...
Dites-nous ce qui lui arrive.
Elle est mal mariée, comme toute Russe qui se respecte. Et elle tombe amoureuse de son voisin pendant que son mari est à la guerre. Et puis le voisin en a ras-le-bol, le mari annonce qu'il revient et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, le mari qu'elle empoisonne et elle, avant d'être condamnée aux travaux forcés, elle meurt dans le premier poste de gare. Elle n'arrive même pas en prison.
Mais très russe.
C'est très russe, c'est très malheureux, mais elle n'est pas très méchante, quoi. Elle est bêtement amoureuse, elle est plus...
En fait, est-ce que vous ne pensez pas que le titre de Tchekhov est une ironie? C'est-à-dire, il signale bien qu'elle est garce, mais... Parce qu'elle se venge, non? Parce que son amant est venu lui dire, quand le mari revient, retourne à la religion, nous avons fait une erreur.
Peut-être qu'il y a de l'ironie chez... D'abord, elles sont plusieurs dans le titre, et je ne vois pas très bien où sont les autres, parce que les autres sont édentés et balayent devant la porte par cette soirée d'été lourde.
On peut mordre métaphoriquement.
Oui, peut-être. Mais en effet, ça ne me paraît paradoxalement pas être le portrait le plus... le plus précis de la gare, ce qu'on puisse trouver dans la littérature et les arts en partie, en général.
Est-ce que vous avez mieux en littérature, vous, comme gare?
J'ai pas beaucoup mieux en littérature, à part effectivement dans Margaret Mitchell, Scarlett O'Hara, mais on en parlera au cinéma, c'est tellement plus intéressant.
Voilà, alors passons justement au cinéma qui a été très gourmand de Garce, cher ami, et l'impératrice Annette Betty Davis, je l'ai dit, elle
Nature
a tourné
Mich.
Plusieurs films où elle interprète des Garces de grand style, n'est-ce pas?
A-t-elle interprété autre chose, finalement?
Une aveugle, une fois.
Oui, voilà, mais alors vraiment, parce qu'elle avait des loyers et des dettes, probablement.
Alors, diriez-vous, Anne Boulay, qui est une spécialiste de la garcerie, diriez-vous avec moi qu'on ne voit pas mieux la différence entre la garce et la salope qu'en observant d'un côté les personnages interprétés par notre amie Betty Davis et de l'autre côté la personne de Margaret Thatcher?
Oui, c'est évidemment une comparaison à laquelle je n'étais pas préparée. Mais oui, ça me paraît tout à fait exact. Je croyais que vous alliez comparer avec John Crawford, qui est quand même son espèce de double maléfique et qui est un peu différente, qui est moins garce et plus salope, je dirais, mais voilà, ouais. Pour des tas de raisons.
Elles ont tourné deux films ensemble.
Absolument, avec le succès qu'on sait, mais voilà. J'ai l'impression que la télé-réalité sur le tournage du film aurait été presque plus, encore meilleure que le film, ce qui peut dire.
Vous savez que, évidemment, qu'il y a eu une série tirée
oui.
à partir de l'histoire
de
du tournage du film.
Voilà, c'est ça, évidemment. Oui, parce que bon, c'est riche en événements. Oui, vous avez tout à fait raison. L'esprit fait toute la différence. Bette Davis était pleine de talent, déjà, je sais pas, je n'ai rien contre Margaret Thatcher, enfin si, plein de choses, mais elle n'avait pas le même talent. Ni l'une ni l'autre n'était très jolie. Donc, est-ce que, je sais pas, à un moment donné, il va falloir affronter l'éléphant dans la pièce. La garce est rarement, déjà, ça n'est pas une belle personne, mais elle est souvent pas très jolie non plus.
Vous croyez ça?
Ouais. À mort. Je pense que c'est une manière mais elles sont ultra séduisantes parce que, en effet, l'esprit, supplante de beaucoup la beauté, puis ça dure.
Betty Davis a tourné, vous le disiez, un nombre très grand de rôles de garce. Elle a tourné un de ses plus beaux rôles, et celui de Margot Channing dans All About Eve. Ce qui est intéressant, c'est que dans le personnage de... Vous vous rappelez Margot Channing, vous pouvez nous raconter un peu...
Non, je ne peux absolument pas.
Margot Channing est une actrice de théâtre qui est abusée par une jeune ambitieuse, tout à fait modeste et humble, et qui finit par prendre sa place. Et tout le début du film, Betty Davis, Margot Channing, se comporte comme une garce. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait, elle était garce parce qu'elle voulait travailler et qu'elle voulait pas être embêtée par tout autre chose que son métier.
C'est une défense, en effet. Alors, je pense qu'il faut aussi noter que la garce est toujours accompagnée de son contrepoint, qui est la brave fille, qui est nettement moins intéressante, à laquelle j'ai l'impression que vous n'avez pas l'intention de consacrer une émission, parce qu'on s'en fiche. Mais elle est souvent accompagnée de son... Vraiment, c'est son contrepoint, comme on dit en joaillerie, qui fait briller encore plus sa méchanceté, etc. Mais en effet, c'est une défense, parce qu'elle est la jolie fille peut être jolie, justement, au contraire de la garce, qui est obligée de trouver d'autres moyens d'exister, soit parce que, en effet, la société ne lui permet pas d'être ce qu'elle est, soit parce qu'il y a de la concurrence. Et en effet, c'est souvent quand même un esprit un peu méchant qui lui permet de sauver sa peau.
Méchant ou cruel ?
Moi, je pense que c'est plus méchant que cruel. Ce que vous dites est vrai. Il y a beaucoup de défense et de besoin d'exister dans tous les personnages de garce qu'on a évoqués. Quand même, le destin est contre elle, d'une manière générale. Donc, c'est une arme, en fait, la méchanceté. La cruauté, c'est un truc où on se fait plaisir, quoi. C'est la perverse. Alors, il peut y avoir une dose de perversion, mais je ne crois pas que ça soit fondamentalement ça.
Oui, vous avez probablement raison. C'est-à-dire que la garce est une faible et un des grands personnages de garce, à mon sens. Et alors là où je m'opposerai, si vous me le permettez un instant à vous, si vous ne me répondez pas une garcerie, ce qui est, je crois, assez joli, j'en suis même sûr parce que c'est dit, c'est Carmen, le personnage de Mary May et de l'opéra. Elle est faible, en effet, comme vous le dites,
elle
parce
est
que c'est une cigarière bohémienne.
Bien sûr.
Et en même temps, c'est une belle fille.
Oui, c'est vrai. Elle, Alors, c'est encore autre chose. Je pense qu'effectivement, elle, pour ne pas subir son rang, son destin, elle doit trouver des solutions. Et en effet, elle est peu attachée. Elle joue avec les hommes. Mais c'est aussi peut-être qu'en effet, elle a, d'une manière générale, effectivement, ce qu'on voit chez les garces, c'est qu'elles utilisent des techniques généralement attribuées au genre masculin, qui ne choquent pas quand c'est un homme... Qui les commet, et soudain, parce que ce sont des femmes et qu'elles sortent de leur genre, elles paraissent en effet tout à fait méchantes, dures, guerrières, tout ce qu'on veut. Carmen n'est pas affublée de laideur, mais elle est affublée d'une oui, position sociale qui est un handicap certain.
En effet. Et elle montre, vous avez raison, une jouissance de blesser avec ce qui doit être une des grandes armes de la gare, c'est l'ironie.
Oui, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'esprit chez toutes ces gares, c'est une arme fatale.
Carmen en particulier, mais beaucoup de gares, applique son ironie aux autres, mais il me semble qu'elle applique aussi son ironie au personnage qu'elle se crée. Est-ce qu'il n'y a pas une double ironie chez la gare? Elle n'est pas dupe.
Si, probablement. C'est aussi ce qui fait d'elle souvent des femmes froides, c'est qu'elle se voit jouer. C'est un jeu, en effet. Et il y a surtout chez toutes ces femmes, en effet, quelles qu'elles soient, encore une fois, dans la fiction, dans la réalité, le courage de déplaire.
Ce qui est frappant chez la garce aussi, très souvent dans tous les personnages dont nous avons parlé, et même d'autres, c'est une apparence de désinvolture.
Oui, c'est vrai. Elles ont l'air de s'en foutre.
Ouais.
Elles ont l'air de s'en foutre. Alors, c'est beaucoup de travail de s'en foutre. Quand on revient à Bette Davis, effectivement, je pense qu'il y a environ 5 heures de hair and make-up, probablement, ne serait-ce que pour avoir ce teint blafard.
Ou pas,
d'ailleurs. Mais je ne sais pas si c'était naturel. Mais en tout cas, c'est très construit. Et c'est vrai que ça n'est pas... Ça ne vient pas tout seul, ça c'est certain.
Je peux vous raconter une vieille histoire.
Mais avec plaisir, mon cher.
À propos de s'en foutre. Oui. Claude Mauriac était le secrétaire du général de Gaulle, le fils de François Mauriac était le secrétaire de De Gaulle à la Libération.
Il arrive, vous êtes
c'est
bien
une
connu.
Histoire tout à fait vraie. Et il était à ce moment envoyé par le général de Gaulle pour être aide de camp du général Koenig à Paris, à la Libération. Il est avec Koenig à Paris dans la rue. Ils sortent d'une voiture, la milice tire, tout le monde se met à plat ventre, sauf le général Koenig qui reste debout. Là, ça, l'échauffourée se passe, Mauriac se relève et dit « Mais mon général, comment avez-vous fait pour rester debout? Quel courage !» Et Koenig lui répond « Mauriac, dans la vie, il y a une seule chose, l'important, c'est de s'en foutre.
» Bah, magnifique.
C'est un travail.
C'est un travail. S'en foutre, c'est absolument un travail, en particulier dès que ce sont des actrices ou des femmes qui sont des femmes publiques, quand ce ne sont pas uniquement des personnages de fiction. Et en effet, il faut une grosse, grosse dose de détermination pour avoir l'air de s'en foutre, puisque c'est un travail à plein temps de paraître, en particulier pour les femmes des générations encore très proches, à qui on demandait d'être jeunes et jolies, et toutes celles-là ne le sont pas.
Alors, il y a un bon personnage de garce dans une série télévisée qui est celui d'Andrea Marteau, qui est interprété par Camille Cotin.
Absolument.
Dans 10%.
Dans 10%.
Alors, dites-nous qui c'est ça.
Alors, c'est un agent qui préfère les filles et qui est effectivement très désagréable avec tout le monde. Alors, il y a une ligne de crête aussi qu'il faut évoquer, qui est que ce sont des femmes qui ont tendance à confondre caractère et mauvais caractère. Ça peut quand même très vite tomber dans l'excès. Mais donc, elle est désagréable avec tout le monde. Elle a les meilleures punchlines de la série, évidemment.
Je peux vous dire ce qu'elle dit à son assistante. Elle dit à son assistante le programme de la journée, puis elle finit en lui disant « Étudie à ton chemisier qu'il sent le graillon parce qu'il est le seul qui n'est pas l'air au courant.
» Voilà, c'est ça. C'est sur les femmes méchantes, on les adore, effectivement. Il y en a une autre que vous n'avez pas citée, qui a bercé mon enfance, qui est Nellie Olson, dans La Petite Maison dans la Prairie, et sa mère, Harriet. Elles sont c'est vraiment des gars.
Alors, racontez-moi, parce que je ne
alors,
connais
vous
pas,
ne connaissez
la
pas. Alors, mais comment pouvez-vous même respirer?
Parce que quand on me dit prairie, je tombe.
Ah, bien sûr.
C'est ça.
Ah, vous êtes allergique peut-être au pollen.
Voilà,
ah, oui,
c'est ça, la
oui.
Verdure.
Je m'en doutais,
choses
je le voyais bien. Oui. Je l'avais senti.
En revanche, La Petite Maison dans le bitume, j'ai vu ça 100 fois.
Ah, bien sûr. Alors, il n'y a pas Nellie Olson, je crois. C'est le remake, c'est ça, urbain.
Alors, dites-moi.
Alors, donc, là, dans La Petite Maison dans la Prairie, il y a une famille très vertueuse qui sont les Ingalls, qui sont très pieux, etc., qui ont toutes sortes d'enfants blonds avec des jolies petites nattes. Et puis, il y a l'épicier du village, Monsieur Olson. Et alors, lui, il a une femme, Harriet, qui est très jalouse, très méchante, très acariâtre. Elle a une tête assez Bette Davis, effectivement, qui était une femme très gentille dans la vie, je crois. Et qui est donc affublée d'une fille qui s'appelle Nellie, qui est une espèce de petite peste. Vraiment une garce qui n'existe qu'en faisant des coups pendables aux autres. Alors elle est très laide et elle a des espèces de bouclettes immondes. Ça se voit sur leur figure, c'est absolument incroyable. Et en face, effectivement, il y a toute cette famille qui est exténuante de niaiseries, évidemment, du coup. Donc forcément, on s'intéresse beaucoup plus à Nellie Olson, qui ensuite, dont l'actrice a fait des tournées en France, parce que c'est une série américaine. Elle s'est installée en France elle faisait comment ça s'appelle ça? Un seul en scène, je crois qu'on dit maintenant, selon la nomenclature.
Ah bon, un one-woman show.
Qui s'appelait Une garce dans la prairie ou un truc comme ça. C'est vous dire à quel point c'était également son fond de commerce. Mais donc, elle a rendu garce des générations de petites filles comme moi.
Ah oui, ça vous est resté?
C'est la genèse, oui, bien sûr.
Bien sûr.
Je m'identifiais à Nellie Olson.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas dans la garce, alors je ne sais pas, dans La Petite Maison dans la Prairie, mais ça existe, on l'a dit, avec Margot Channing, mais encore plus avec le personnage d'Andrea Martel dans 10%, c'est que petit à petit, on se rend compte qu'au fond, c'est une brave fille. Elle s'appelait Marteau, elle a grandi dans un village de province pourri où elle pouvait ne rien faire et qu'en fait, elle a construit quelque chose pour se défendre.
Oui, alors encore une fois, la chose fondamentale, c'est qu'elles sont quand même sympathiques.
Voilà.
Il y a un truc qui fait qu'elles ne sont pas monobloc, elles ne sont pas que dans la méchanceté, etc. Et il y a beaucoup plus... Je pense de plaisir d'actrice à jouer une garce parce que ça demande une nuance considérable. Je suis pas tout à fait d'accord avec le portrait qui était fait de Bette Davis, qui est une actrice qui est quand même plus sensible que ça. Et en effet, il y a 50 nuances de bitcherie, si j'ose dire. Et c'est ça qui... L'enjeu, c'est ça. C'est que finalement, on les trouve plutôt sympathiques, plus que la brave fille, que effectivement c'est la jeune première, la fille pieuse, ou quand on parlera de d'autant on emporte le vent, les personnages sages sont inintéressants.
Ah oui, ils ne nous apprennent rien, puis surtout on n'est pas comme eux.
Non, nous on est des garces, donc ce qu'on veut c'est se retrouver dans ces personnages.
Nous allons maintenant entendre Les progrès d'une garce, chanson de Pierre Macorlan. Le titre est évidemment une référence au Rex Progress de Hogarth, musique de Victorien Marceau, interprète Monique Morelli.
Ah, c'est jeune.
Le bel ange des familles ne bénit pas mon berceau. Quand je fus petite fille, je vécus comme un pourceau. Ma conduite scandaleuse attristait tout un chacun. Je devins entremetteuse au moment de mon déclin. Mais avant que de prouesse, de Sceaux jusqu'à Poplar, avec Hériot la négresse et les enfants du hasard, avec ce Miller obèse qui but de la morora, des mains de pâte irlandaise dans un verre de moka, et j'appris le jeu classique chez Goethe de mes frères, une vieille aux yeux lubriques, mais qui n'en avait pas l'air. Je connus une cohorte de gentlemen amoureux, tel que le diable l'emporte, Monsieur Fenn et ses aïeux. On lui passa une corde graissée autour de son cou.
Anne Boulet, vous êtes une femme.
Oui, il semblerait.
Ça ne suffirait pas d'ailleurs à la démonstration, car il existe, je crois, des femmes misogynes. Mais diriez-vous que la garce est un stéréotype misogyne?
Alors non, très honnêtement non, parce que vous l'aviez très bien dit au début, elle est qualifiée à peu près, elle est crainte par les hommes comme par les femmes. Je dirais qu'elle est presque plus, davantage crainte par les hommes que par les femmes. Donc je ne pense pas que ce soit un personnage misogyne, alors je n'ai peut-être pas la même définition de la misogynie que les jeunes qui m'entourent. Mais non, je ne crois pas que ce soit pour moi il y a une grosse nuance d'admiration, il y a plus d'admiration dans l'esprit des gens que de c'est peu péjoratif finalement.
Bah d'ailleurs cette admiration, je crois, se voit très bien dans les romans policiers de Raymond Chandler ou James Hadley Chase, dans La chair de l'orchidée, tous
Absolument.
Ces romans-là où on sent bien qu'ils admirent la bitcherie de ces femmes.
Alors déjà, je trouve intéressant qu'en anglais, en effet, le sens se soit étendu à tout le monde, des hommes, des femmes, des situations, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, c'est quasiment devenu un compliment, bitch, biatch, tout ce que vous voulez. Enfin c'est vrai, ça n'a plus aucun caractère ni misogyne ni péjoratif. C'est un peu vulgaire, quoi, voilà. Mais bon, ça, qui n'aime pas un peu de vulgarité de temps en temps.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que des hommes à avoir décrit des garces. Là, on vient d'entendre une chanson jeune, comme vous disiez gentiment, dans l'intervalle. Mais il y a eu aussi des chansons écrites par des femmes. Et par exemple, il y a une chanson chantée par Marie-Paule Belle sur des paroles de Françoise Maëlle Joris et qui s'appelle Je veux être une garce, avec une intention satirique. Et d'ailleurs, j'ai trouvé chez Anne Boulet que pour prouver que les femmes ne se sont jamais laissées faire par ce stéréotype de la garce, il y a des livres où elles s'en moquent, comme en Angleterre, et même s'il ne s'agit pas que de la garce, un livre qui s'appelle « L'art de tourmenter ingénieusement » d'une certaine Jane Collier en 1753.
Déjà, c'est dire.
Les femmes ne se sont jamais laissées faire.
Mais jamais. Déjà dans les cavernes.
On peut dire aussi d'ailleurs que si des romanciers ont décrit des garces, ils ne se sont pas privés aussi pour décrire des hommes qui soient des crétins, des fourbes, des salauds.
Mais bien sûr, il ne faut pas le prendre personnellement. Non, de toute façon, surtout, effectivement, c'est encore une fois, ce sont des personnages riches. Parce que ce sont des personnages, effectivement, qui ont des failles, qu'on montre, qu'on découvre. Et puis, elles sont sexy. Il y a un truc un peu... Il y a également une chanson de Johnny Hallyday dans Les Chanteurs Jeunes, qui s'appelle La Garce, où il veut juste la faire, parce qu'en effet, il y a aussi un jeu de séduction qui, en effet, est intéressant parce qu'il échappe aux stéréotypes généralement attribués au genre, qui sont la joliesse, l'amabilité, la capacité à sourire et à faire la potiche, etc. Ce sont tout sauf des potiches, hein, donc elles résistent. Et donc elle devient un objet de désir parce que, en effet, elle résiste à tout, à la définition, au code traditionnel de la séduction, etc. Et en cela, moi, je trouve que ce sont des figures quasiment féministes, de celles que vous décrivez au XVIIIe siècle à maintenant. En effet, elle se joue des codes, en fait. Carmen, elle se joue des codes. Toutes. Elle s'amuse de ça à ça. Peut-être que ça cache un grand malheur derrière et que c'est pas drôle, mais elles font avec ce qu'elles peuvent et ce que la société leur donne comme échappatoire ou qu'elles se trouvent comme échappatoire dans des sociétés qui ne rendent pas leur vie facile.
Est-ce que vous diriez que un des combles de la garcerie et de l'ironie parallèlement seraient les personnages de potiche qui jouent la surpotiche, et je pense aux personnages que joue si souvent Mireille d'Arc ou Marie Laforêt dans les comédies françaises des années 70 de Lautner, où oui. Elle joue au con, mais au fond elle se moque encore plus des
hommes. C'est ça, elle devient, alors bon, faut être capable de lire, hein. C'est-à-dire que je suis pas hyper sûre que ça soit l'idée de départ, mais en tout cas on peut le lire comme ça aussi, c'est-à-dire que ça, elles ne sont pas que jolies avec des robes très échancrées dans le dos, elles ont effectivement suffisamment d'esprit pour, enfin, ou en tout cas, elles nous font comprendre qu'elles ne sont pas exactement dupes du rôle qu'on leur assigne. C'est pas non plus la garcerie poussée à l'extrême, pour moi, parce qu'en effet, non. Ça manque un peu de verbe. Pour moi, la garcerie, quand même, passe par la punchline. C'est-à-dire que c'est quand même le verbe très affûté, la manière de claquer le beignet, et encore une fois, l'esprit, quoi. Voilà.
Marie Laforêt en a une. Pas distingué dans un film de Lautner comme ça, où un type, un truand, va pisser en sortant de la voiture dans une rigole et puis il pisse sur une conduite électrique, l'électricité remonte et le tue, et Marie Laforêt dit élégamment, pour une fois qu'il faisait des étincelles avec sa bite.
Elle le dit comme ça. Mon Dieu, mais que faisait la censure ?
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque un peu, pour l'instant, dans la fiction et dans les personnages de fiction, que ce soit les films, la chanson ou les livres, des personnages de bitch hommes ?
Alors,
ou vous en
autre éléphant
peut-être.
Dans une autre pièce.
Voilà.
Le bitch homme est généralement gay.
Oui.
Voilà, il faut bien le dire. Non, on y va là.
Bon, alors, je vous autorise.
Voilà. Donc en effet, c'est souvent... C'est souvent un personnage gay, pareil, mais qui se défend comme il peut et qui a également de l'esprit. Hasard ou complot, je ne sais pas. Il y a une grande configuration.
Ils sont partout.
Oui, les bitches, il est gay. C'est ce qu'on dit, mais j'en connais pas, moi, personne. On m'a dit que c'était vrai.
C'est ça.
Mais en effet, oui, alors en tout cas, il n'y a pas un hétéroplot que c'est pas John Wayne ne descend pas de son cheval en étant bitch.
Non, c'est ça.
Alors qu'il s'appelait Marianne.
Il s'appelait Marianne.
Donc il aurait pu finalement, mais j'ai pas l'impression qu'il ait pris ce chemin, hein. C'était pas vraiment le...
On le regrette, ça l'aurait attendri un peu.
Oui, ça l'aurait peut-être rendu un peu intéressant.
Plutôt
finalement.
Que les bérets verts, à la fin, il aurait tourné les jupes roses.
Je crois qu'il était pas du tout prêt à... et je crois qu'il était pas du tout prêt à faire avoir le courage qu'avait Cary Grant, évidemment, et l'esprit qu'il avait, parce qu'il a effectivement, ils étaient plus proches, je pense, d'Ed Beach. Mais en effet, souvent, les bons mots sont Oscar Wilde, tout ça, hein, voilà.
Est-ce que, Anne Boulay, la garce ne serait pas devenue estimable en grande partie grâce aux romans populaires et au cinéma ? Et je pense à quelqu'un dont vous avez lâché le nom dans la première partie de l'émission, qui est Scarlett O'Hara.
Oui, bien sûr, Scarlett O'Hara. Alors, Scarlett O'Hara, compliqué, parce qu'elle est finalement...
C'est une
espèce de bourge du Sud, pendant la guerre de Sécession, qui se marie à 16 ans avec un mec qu'elle n'aime pas. Elle est amoureuse du voisin, qui par ailleurs est une énigme depuis le départ, parce que c'est quand même une quiche, comme on n'en refait plus. Mais on ne sait pas pourquoi, elle s'entiche de ce type, j'ai oublié le nom, c'est dire à quel point il est quiche. Et alors, elle a au moins 3 maris avant Red Butler, non ?
5, je crois.
Une bonne, parce qu'ils meurent tous à la guerre. Voilà. C'est le bien pratique. Voilà. Hein. Et donc, elle fait toutes sortes d'allers-retours entre... quelle
Atlanta.
Est la capitale du Sud ? Atlanta, absolument. Géorgie et Tara, donc le domaine. C'est très long, hein, quand on le revoit, en fait. Hein.
C'est
j'ai revu
bon,
récemment.
Hein.
Non, c'est pas...
Il y a des couchers de soleil en confiture de fraises qui sont intéressants.
Absolument. Beaucoup de très belles coiffures, j'aime beaucoup. Voilà, ouais, des espèces de résilles très chouettes. Beaucoup de robes à paniers, oui. Beaucoup de crinolines et de carrioles, etc. Et d'aller-retour entre Atlanta et Tara. Et elle est mi-grotesque, mais en même temps, en effet, c'est une femme forte. Elle se bat pour ce domaine. Elle utilise les hommes, effectivement, comme marchepied dans l'espoir vain, finalement, d'épouser ce voisin quiche, qu'elle n'aura pas, si je me souviens bien. Elle finit seule et abandonnée de tous, mais bien coiffée toujours. Et elle ne voit pas, surtout, parce qu'effectivement, elle est tellement dans un espace de combat pour... pour essayer d'exister. On ne sait pas très bien, en fait, pour qui elle
c'est
est.
C'est une si elle toupie. C'est, elle oui. tourne en permanence.
Ben, oui, mais bon, elle n'a pas été à l'école, j'ai l'impression. Comme elle s'est mariée à 16 ans, elle n'a pas pu avoir le bac. Elle n'a pas fait Parcoursup, tout ça. Et donc, elle n'a pas les éléments, je pense. Ouais. Et l'élément, à mon sens, principal qui lui manque, c'est qu'elle ne voit pas Crête Butler. Il est vraiment amoureux d'elle.
Alors, là, tout ça, depuis tout à l'heure, nous expliquons beaucoup le comportement de la garce par le fait qu'elle a du dépit. Oui. Mais elle n'a pas que du dépit, car depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années sont apparues des femmes fières d'être garces. Et je voudrais citer une qui n'est pas loin d'être une garce, je pense, qui est Madonna, qui chante « You gonna love this 'cause I'm a bad bitch ». Et c'est d'ailleurs dans une chanson qui s'appelle modestement « Bitch, I'm Madonna ». Et donc, on est là dans une fierté de ça.
Oui,
c'est
bah,
une
oui.
chose assez nouvelle maintenant exprimée.
Et qui a été très imitée. Je vous renvoie à I'm Britney Bitch, de Britney Spears,
it's
évidemment.
Britney,
it's Britney Bitch. Voilà, donc en effet, elle est la reine des bitches de la pop, quoi, en tout cas. C'est-à-dire qu'elle, elle a engendré toutes sortes de filles plus ou moins légitimes.
C'est des gremlins.
Un petit peu. Hein,
la descendance beaucoup. De Madonna, c'est des.
Oui, alors là, c'est quand même, c'est pareil, c'est un peu fini, je pense, parce qu'on est passé à autre chose.
On est revenu à la grande niaiserie sentimentale
oui,
et
voilà,
gentille.
Voilà, avec des filles qui ont 8 octaves et qui.
Voilà, c'est ça. Qui bêlent un peu.
Elles bêlent pas mal. Oui,
et qui sont gentilles et humbles, surtout humbles.
Elles sont très humbles. Oui, elles sont contentes à leur messie Dieu ou leur manager si elles croient pas en Dieu. Ou leur momager si elles ont une mère. Mais c'est pareil, c'est une survivante. Madonna, c'est une danseuse de New York, orpheline de mère. Qui a dû se battre, quoi. Et je pense qu'en effet, la dureté qu'on confère généralement à ce genre de personnage vient aussi, en effet, de ce qu'elles ont subi, oui.
Elle dit dans une interview, quelquefois, il faut être garce si on veut que les choses soient faites.
Ouais,
la garce est-elle une femme qui dresse les autres ?
Elle peut. J'ai lu quelque part quelque chose qui dit que c'est une définition de bitch en anglais qui dit que c'est « bully in skirt ». Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, ça veut dire qu'effectivement, c'est
une brute en jupon, quoi.
Une harceleuse, même. Elle peut être pénible. Et c'est vrai qu'elle, ça peut s'exercer à l'égard des autres femmes, ce qui n'est pas très à la mode en ce moment et qui est tout à fait répréhensible.
Ben là, encore nous avons Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada, dans
oui,
le temps,
voilà.
En s'exerçant sur les autres
absolument.
Femmes.
Absolument. Bon, alors, nous n'avons pas parlé de la mode, qui est le biotope favori de la garce, mais parce qu'encore une fois, c'est la compétition, c'est la jungle. Ces femmes sont dans des jungles où seuls les plus forts survivent.
Parce que vous croyez qu'il n'existe pas des garces dans les couvents, vous ?
Je connais mal les couvents, c'est-à-dire que j'ai plus été
ça
dans
se voit.
Des. Oui, je sais, malheureusement. Bah oui, mais c'est comme ça, voilà. Je suis une femme biologique, j'ai voulu exercer ce droit et bêtement, je me suis retrouvée.
Journaliste.
Oui, voilà. Alors que j'étais.
C'est une vocation.
Non, c'est par dépit, vous savez.
Anne Boulay, que vous ont appris le stéréotype de la garce et les personnages qu'on en a tirés ?
Eh bien, précisément que on peut exister dans la durée, loin des critères de beauté, de gentillesse et de niaiserie dans lesquels on aurait bien voulu nous cantonner. Mais heureusement, Nelly Olson était là.
C'était Personnage en personne, le 121e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de la jeune fille dans la fiction.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de production Meryl Moneghetti. Prise de son Cédric Châtelus. Dans un instant, Mathias Sénard et la salle des machines.
À qui c'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue.